Alors, le thème du carrefour, c'est de partir d'un bouquin de Gary Chapman sur les vertus, sur ce qu'on appelle les petites vertus. Il n'y a pas de petites vertus, il n'y a que des grandes vertus. Donc, c'est une espèce de petite réflexion sur les vertus. Alors, on va partir d'un peu loin quand même. Donc, vous savez que le terme vertu est un terme qui n'était pas à la mode il y a un certain nombre d'années. Dans la pensée 68, le terme vertu, c'est un terme à bannir. Non. Et puis, c'est revenu à la mode, en fait, en France, avec des par exemple, il y a eu un traité des petites vertus qui a été fait par, je crois, Comte Sponville, hein, qui est un philosophe athée, mais qui est loin d'être idiot, et qui a donc fait un livre un petit peu sur les petites vertus. Et puis, donc, Gary Chapman, donc auteur bien connu, dont je dirai un mot après, a donc fait un bouquin sur les petites vertus, les vertus sociales, qui est pas mal. Ce qui montre que ça revient à la mode, hein, c'est une petite anecdote que je me permets de vous raconter. Il y a 2 ans, à Bordeaux, on a béatifié une religieuse bordelaise, une Clarisse, qui s'appelait Marie-Céline. La cérémonie a eu lieu à Bordeaux, comme on fait maintenant pour les béatifications, et elle a été précédée d'un déjeuner officiel, dans lequel il y avait 30 personnes ou 40 personnes, où il y avait le cardinal archevêque de Bordeaux, le cardinal qui venait de Rome pour la béatification, et le ministre de l'éducation nationale, d'Arcos, qui est périgourdin. Il se trouve que Marie-Céline était née en Périgord. Donc il avait été invité à ce titre-là. Alors à la fin du repas, à la fin du déjeuner, donc moi j'avais été invité parce que j'avais écrit sa vie. Donc à la fin du déjeuner, le cardinal Ricard, archevêque de Bordeaux, s'est levé, il a fait un speech sur Marie-Céline, qui était très beau, très édifiant. Le cardinal venant de Rome s'est levé, il a fait quelque chose de bien, c'était très bien, c'est très catho. Et puis alors on a eu la surprise de voir se lever le ministre de l'Éducation nationale, qui a dit ceci. Vous vous demandez peut-être pourquoi un ministre de l'Éducation nationale représente officiellement le gouvernement de la République lors d'une cérémonie de béatification. Eh bien, c'est normal, parce que la République honore la vertu. Alors, en effet, Marie-Céline, qui est du Périgord, de chez moi, a vécu une vie de vertu héroïque. Eh bien, par conséquent, comme ministre de l'Éducation nationale et représentant de la République, nous honorons les vertus de Marie-Céline. Je trouve ça très beau. Oui, la République honore les vertus, fût-elle héroïque, hein, fût-elle catho. En tout cas, ce qui est intéressant derrière ça, c'est que le mot est partiellement revenu à la mode. Donc, en tout cas, à la mode, ça veut dire dans la pensée. Il est revenu dans la pensée. Bon. Alors, on va procéder de façon très très simple. Je vais dire un petit mot sur ce que sont les vertus, d'accord ? Puis après ça, on va situer les vertus par rapport aux petites vertus par rapport aux grandes vertus. C'est bien de les situer par rapport au don du Saint-Esprit, puis par rapport au charisme. Autrement, on se mélange tout. D'accord ? C'est simplement pour dégager un peu le terrain. Et puis après ça, on dira un tout petit mot du bouquin de Chapman, que vous achèterez si ça vous amuse. Hein. Et vous le ferez dans toutes les bonnes librairies, peut-être même les mauvaises. Hein. J'espère dans les mauvaises. Hein. Et puis après, si vous voulez poser des questions, vous poserez des questions, et après ça, vous irez prendre le thé. Ça va ? Bon, alors, donc, qu'est-ce que c'est une vertu ? Donc, il faut d'abord savoir ce qu'est une vertu. Alors, ça, c'est assez simple, en réalité. Une vertu, c'est un pli, en quelque sorte, de la psychologie ou de la conscience. Alors, vous savez que c'est pas compliqué, comme les vices sont des plis négatifs de la psychologie et de la conscience. Alors, c'est simple. Quand vous avez un enfant a des qualités. Un petit enfant, il a des qualités. Vous voyez, par exemple, il est agité, c'est une qualité, il est gentil, c'est une qualité. Bon, il est généreux, c'est une qualité. Bon, il peut aussi avoir des défauts. Un enfant peut avoir des défauts. Il peut être égoïste, il peut être jaloux. Vous ne savez pas ce que c'est, mais ça peut arriver. Bon, donc, ok. Alors, dans l'éducation et dans la vie, si on cultive les qualités, si l'enfant d'ailleurs lui-même les cultive, hein, spontanément, puis si ses parents, si son entourage l'aident, hein, ces qualités deviennent de plus en plus profondes. Vous voyez ce que je veux dire, hein ? Elles deviennent de plus en plus incarnées à l'intérieur de lui. Et donc, c'est comme un pli. Vous voyez, si vous prenez un papier et que vous faites un pli à un papier, le pli reste. Plus ou moins. Bon, enfin, il reste. Eh bien, c'est pareil pour un être humain. Quand un être humain cultive ses qualités, tout simplement par répétition, eh bien, à ce moment-là, ça devient plus solide. Plus vous les cultivez, plus c'est facile. Et donc, à ce moment-là, ça devient ce qu'on appelle des vertus. Les vertus, ce sont des plis, en quelque sorte, ce sont des habitudes positives, ce sont des habitus, comme on dit dans la philosophie médiévale, ce sont des habitudes positives de la conscience et de l'être. En échange, les vices sont des habitudes négatives. D'accord. Quelqu'un, par exemple, qui a tendance à boire, s'il se met à boire de plus en plus, il va devenir un buveur. Ça, c'est un vice. Hein. Vous comprenez? Donc, c'est pas très compliqué, en fait. Donc, les vertus, donc, ce sont des plis positifs, des habitudes positives qui sont à l'intérieur de nous, et les vices, c'est l'inverse. Donc, toute l'éducation, normalement, devrait être d'acquérir des habitudes positives et de combattre les habitudes négatives, vicieuses. Sachant que plus vous avancez, plus c'est facile. Saint Paul explique ça très très bien, vous savez, dans ses comparaisons avec le sport. Vous vous rappelez toutes ces comparaisons avec le sport ou la lutte que vous trouvez chez Saint Paul? Mais ça repose sur ce principe-là que l'Antiquité connaissait très bien. C'est-à-dire que quand vous répétez des choses de façon positive, au bout d'un moment, ça devient infiniment plus facile. Ouais, c'est sûr que si vous rangez votre chambre, si vous avez l'habitude de le faire, à la fin c'est plus facile. Hein. Je dis pas ça pour les femmes. C'est, je sens que je touche quelques personnes ici. Bon, c'est bête comme chou. Oui, c'est bête comme chou. Donc si vous habituez à faire des choses qui sont positives, eh bien elles se font plus facilement. C'est aussi bête que ça. Ça va? Bon, alors. Maintenant, c'est important donc de parler un tout petit peu de façon plus générale des vertus. Et puis, je dirais un petit mot aussi de ce qui concerne donc les dons du Saint-Esprit et les charismes. Ça va? Pour les vices, eh bien, vous reviendrez l'année prochaine, on fera un carrefour pour ça. D'accord? Cette année, on n'a pas le temps d'en parler. Bon. Alors, l'Antiquité connaissait déjà très bien les vertus. Les Romains, les Grecs, avant eux, avaient beaucoup étudié cette question des habitudes, en quelque sorte, positives qui font vivre les gens, individuellement et collectivement. Bon. Et le christianisme a repris toute cette classification des vertus qu'on trouvait déjà chez Aristote et chez d'autres, hein, en la précisant. Et alors, celui qui en a le mieux parlé, de très loin, c'est saint Thomas d'Aquin. Dans la somme de saint Thomas d'Aquin, vous avez toute la seconde partie de la somme, ce qu'on appelle la Segunda Segundae, qui s'occupe des vertus, et c'est vraiment remarquable. Alors, on a, si vous voulez, on a déterminé en quelque sorte sept grandes vertus, mais ça ne fait pas le tour, parce qu'il y a plein d'attitudes chez un être humain, non ? Il y a plein de possibilités de se comporter, d'agir, de se tenir d'une façon ou d'une autre. Donc on n'en a jamais fini avec les vertus. Ouais. Et puis en plus de ça, chacun de nous décline ça de façon très personnelle. Bon. Alors donc il y a traditionnellement, il y a sept grandes vertus. Alors il y a trois vertus qui sont ce qu'on appelle les vertus théologales, qui sont la foi, l'espérance et la charité. Pourquoi dit-on théologale? Parce que ça a rapport avec la vie, avec Dieu, de la façon la plus intime. Sachant que les vertus théologales sont en réalité des dons de Dieu. On ne peut pas les créer comme ça. Mais nous pouvons les accepter, les vivre et les développer. Par exemple, la foi, c'est un don de Dieu. Vous n'avez pas la foi parce que vous dites « je décide d'avoir la foi ». C'est vraiment un don de Dieu. Et si vous dites « je décide d'avoir la foi », c'est que déjà l'Esprit Saint travaille en vous. Vous voyez, on ne peut pas dire ça si l'Esprit Saint ne travaille pas. Et une fois qu'on a reçu en quelque sorte la foi, normalement un enfant dans une famille chrétienne la reçoit au baptême, à ce moment-là, on va la travailler. Vous voyez, on va faire ce qu'on appelle des actes de foi. Et donc ça va se développer comme ça. D'accord. Bon, pareil pour la charité c'est l'amour. Eh bien, tout notre forum est sur la charité, sur l'amour. Eh bien, l'amour, ça se travaille par des exercices, par des actes hein, qu'on fait pour des gens, pour des situations particulières, aussi pour soi-même. Donc c'est un don de Dieu, la charité, mais ça se travaille. Ça va? Pareil pour l'espérance. Dans le monde actuel, qui est un monde où il y a une grosse perte d'espérance, eh bien nous, chrétiens, nous sommes appelés à travailler l'espérance et à en rendre compte. Rendez compte de l'espérance qui vous fait vivre. Et donc ça se travaille par des actes d'espérance, voyez, qui sont des actes intérieurs, quelquefois extérieurs, que nous faisons dans la vie. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail, je dis ça de façon générale. D'accord? Simplement pour situer. Alors après, il y a quatre grandes vertus, ce qu'on appelle les vertus cardinales, qui sont des vertus qui viennent beaucoup de notre... Alors, l'Esprit Saint est toujours présent dans ce qu'on fait, mais ça vient beaucoup de notre effort à nous. Et donc, alors normalement, ces vertus, on en a les germes dans l'enfance, hein, et puis après, on les développe. Hein. Alors, il peut y avoir aussi des crises par rapport aux vertus, mais on peut y revenir toujours. Et donc, vous connaissez au moins les noms, c'est la force, la prudence, la justice et la tempérance. C'est bien que j'en dise un petit mot. Alors, je vais commencer par la prudence. La prudence, c'est pas la peur. C'est pas la peur. Dans la tradition catholique, le terme prudence n'est absolument pas utilisé pour la peur. C'est l'art de se gouverner, la prudence, et de gouverner les autres au passage, hein, quand c'est nécessaire. Hein. Donc, quelqu'un qui est prudent, c'est quelqu'un qui sait analyser les situations, quelles qu'elles soient, hein, se situer par rapport aux situations et voir ce qu'il doit faire. Hein. C'est l'art de la bonne gouvernance, si vous voulez, mais au niveau individuel, au niveau familial, au niveau collectif, au niveau du travail, au niveau social, à tous les niveaux. Ouais. Quelqu'un qui est imprudent, c'est quelqu'un qui va rentrer dans tous les murs. Et c'est quelqu'un qui va faire des bêtises, hein, et qui ne se corrigera pas nécessairement. Ouais. Donc la prudence, c'est une vertu qui est la vertu du gouvernement de soi-même et des autres. Et ça, à la fois, ça peut, le Seigneur peut aider là-dedans, je vais y revenir, mais ça s'apprend. Ça s'apprend par l'expérience, hein. Ça s'apprend par ce qu'on entend, ça peut s'apprendre par l'éducation, ça s'apprend beaucoup par l'exemple des autres. Hein. Ouais. Quand dans une entreprise, vous êtes avec un patron qui est un type prudent, eh bien, ça peut être un modèle pour ses collaborateurs, à quelque niveau que ça soit. Ouais. Ou un responsable ou un cadre, voyez. Et alors, sachant que la vertu de prudence n'est pas universelle. Hein. Vous avez des gens qui vont être capables d'agir dans un domaine précis, mais qui ne sauront pas agir dans un autre. Hein. Donc il faut savoir les domaines dans lesquels on est bon. Ouais. Il y a des choses qu'on sent et des choses qu'on ne sent pas. Il y a des choses qu'on sait faire et des choses qu'on ne sait pas faire. Hein. Vous voyez, moi par exemple, je n'ai aucune prudence par rapport aux objets. Je les casse les uns après les autres de façon absolument systématique, en commençant par les micros. C'est comme ça. Vous voyez, c'est comme ça. J'ai une qualité d'imprudence ou un vice d'imprudence par rapport aux objets. Bon, on fait ce qu'on peut. Vous voyez, ça va ? La prudence. Bon, ensuite après, vous avez donc une autre vertu qui est très très importante, qui est la force. Alors la vertu de force, c'est la vertu de la loyauté. Et de tenir ce qu'on fait. On a besoin de force dans la vie tous les jours. Rien que pour se lever le matin et aller au boulot, il faut de la force. Et donc c'est une vertu que vous cultivez, je vous félicite, que vous cultivez tous les matins sans le savoir, mais que vous cultivez quand même. Ouais, bon. Faire un effort pour arriver à l'heure, ben ça peut faire partie de la vertu de force. Hein. Ouais. Alors il y a plein. Après ça, il y a plein de choses qui relèvent de ça. Quelquefois, tenir bon dans des situations injustes, ça fait partie de la vertu de force. Hein, ouais. Imposer des points de vue qui pourraient être difficiles à accepter, ça fait partie de la vertu de force. On en a tous besoin, et en fait, en réalité, on s'en sert toute la journée, plus ou moins. Vous avez des gens chez qui c'est éminent. Par exemple, il faut prier pour que les responsables politiques et religieux, les responsables sociaux, aient la vertu de force. Hein. D'accord ? Parce qu'on a toujours menacé de l'acheter. Ou de complaisance, si vous voulez, pour les gens. Voyez. Donc, garder ses positions, affirmer ses positions, être loyal et indépendant, ça fait partie de la vertu de force. Ça va ? Bon, alors ça se décline de mille et mille et mille manières. Pour élever des gosses, il faut avoir une vertu de force chevillée. Ouais. Pour être curé, il faut avoir une vertu de force ancrée. Et ainsi de suite. D'accord. Bon. Alors, après ça, la force, la prudence, la justice. Alors, la justice, c'est pas, pensez pas aux tribunaux. Enlever du mot justice la justice judiciaire. La justice, c'est de donner à chacun ce qui lui revient. C'est la vertu de l'équilibre des choses qui doivent être données. Ouais. Donc, par exemple, on se doit des choses les uns aux autres. On se doit des choses. Ouais. C'est comme ça que, par exemple, saint Thomas d'Aquin mettra dans la vertu de justice les relations que nous devons avoir avec Dieu. Les relations de base, hein, parce que nous devons à Dieu le respect. Nous devons à Dieu de reconnaître qu'il est Dieu. Est-ce que vous comprenez ? Bon, donc la piété, ce qu'on appelle la piété, saint Thomas d'Aquin le mettra dans la vertu de justice. Alors, la justice est une vertu qui est très très importante parce que c'est la vertu qui combat l'égoïsme. Elle nous objectivise en quelque sorte. Vous voyez ? C'est une vertu objective. Hein. Je dois te donner ça, eh bien, voilà, ou loyalement, je te le donne. Est-ce que vous comprenez ? Mais c'est vrai même dans les rapports, c'est vrai dans la politesse, c'est vrai dans toutes les relations sociales. Hein. Quelqu'un qui est hors de la vertu de justice, et ça nous arrive à tous quelquefois, devient dangereux. Vous comprenez ? Parce qu'à ce moment-là, je vais prendre chez toi au lieu de donner ce que je dois te donner. Est-ce que vous comprenez ça ? C'est une question d'équilibre. Hein. Bon. Et alors la dernière vertu qui est très importante, qui n'est pas la moindre, c'est la vertu de tempérance. Alors la tempérance, c'est pas non plus la peur, c'est la vertu de l'équilibre des dons et des qualités qu'on a. On peut toujours avoir un déficit sur une qualité ou au contraire un excès. Quelqu'un qui a un grand sens de la force peut devenir psychorigide. Ouais. Quelqu'un qui a un grand sens du gouvernement et de la prudence peut devenir combinard. C'est ce que je veux dire. Hein. Donc il faut équilibrer tout ça. Les qualités, les vertus doivent s'équilibrer les unes par rapport aux autres et aussi en fonction des circonstances. Et donc ce qu'on appelle la tempérance, c'est la vertu de l'équilibre de toutes les autres vertus. Ça va ? Bon, ce qui veut dire quoi? C'est que dans la vie chrétienne et dans la vie humaine, nous pratiquons les vertus sans le savoir, toute la journée. Toute la journée. Quand on est chrétien, on le fait de façon plus systématique et en plus, on essaie de combattre les éléments opposés qui sont les défauts et les vices. Ouais. Donc, alors on combat les défauts et les vices soit directement, soit en les dépassant, tout simplement. Beaucoup de défauts ou de choses qui nous gênent à nous sont dépassés par les qualités que nous avons. Vous comprenez ce que je veux dire, hein? Plus on construit quelque chose de positif, plus les défauts sont en quelque sorte secondaires, hein? Vous voyez ce que je veux dire? On garde toujours des défauts, mais on avance, on construit, et donc ça va de mieux en mieux si le Seigneur le permet. Ça va ça? D'accord. Bon, alors, donc il y a les grandes vertus dont je viens de vous parler, et puis je vais y revenir après. Il y a plein de petites vertus. Il y a plein de petites vertus. Chez saint Thomas d'Aquin, vous avez même des vertus qui ont des noms très drôles. Par exemple, vous avez le bully, la cinèse. Vous voyez, pour y appeler une enfant comme ça, bully, cinèse, ça serait amusant. Ce sont des noms de vertus liés au gouvernement, en fait. Vous voyez? C'est une fillette qui s'appellerait Bully, ça serait drôle dans les cours de récréation. Ouais, bon. Donc vous avez plein de vertus comme ça qui portent des noms quelquefois assez étonnants. Vous avez des vertus dérivées des grandes vertus. Ça va? C'est normal. C'est facile à comprendre, c'est du bon sens. Des grandes attitudes intérieures découlent des quantités d'attitudes de détail en fonction des circonstances. Hein. Ça va? Bon. Alors, avant de parler des petites vertus d'arriver à Chapman, je veux encore vous dire deux choses parce que c'est important. Alors là, on entre vraiment maintenant complètement dans la vie chrétienne. On y était déjà avec les vertus. Un être humain ne se suffit pas à lui-même. Un chrétien ne se suffit pas à lui-même. Ça veut dire concrètement que même on reçoit de Dieu la foi, la foi, l'espérance et la charité, d'accord? On essaie ensuite après ça de les cultiver. Et puis, on construit avec l'aide de Dieu aussi ce qu'on appelle l'édifice des vertus, c'est-à-dire des attitudes intérieures qui sont bonnes. Bien. Mais ça ne suffit pas. Vous pouvez avoir des gens qui sont tout à fait vertueux, voyez, mais dont la vie intérieure n'est pas déclenchée. On le voit, ça. Voyez, vous, dans un monde qui est chrétien, vous avez beaucoup de gens qui sont des gens très vertueux. Ils sont des gens, ils travaillent bien, ils sont loyaux, voyez, ils sont à leur place. Vous avez plein de braves gens. Voyez. Est-ce que ça va pour autant suffire, hein? Alors, Dieu agit dans le cœur des braves gens, mais en même temps, voyez, ce qui est très important aussi, c'est de déclencher une vie intérieure forte, une vie de relation avec le Seigneur qui soit une vie de relation puissante. Et cette vie de relation avec Dieu, elle est déclenchée par une aide particulière de Dieu qu'on appelle les dons du Saint-Esprit. Les dons du Saint-Esprit. Les sept dons du Saint-Esprit qui viennent nous aider, voyez, pour aller plus loin que les vertus. Ça va aller plus profond, ça va descendre plus profondément à l'intérieur de nous. Il va y avoir moins de nous et plus de Dieu à l'intérieur des dons. Et ça va nous permettre d'aller infiniment plus loin. Oui, infiniment plus loin. Et donc nous devons demander les dons du Saint-Esprit, ce qui veut dire qu'il faut prier pour ça. Voyez, on doit demander l'Esprit-Saint tous les jours, d'une certaine façon. Voyez, il faut demander à l'Esprit-Saint de venir en nous et de faire plus en nous que nous ne pouvons faire nous-mêmes. Est-ce que vous comprenez ça? C'est très important de comprendre ça, parce que c'est un choix au départ. Ou on dit, je vais mener ma vie moi-même, hein. Peut-être avec ton aide, Seigneur, peut-être avec ton aide. Hein. Ou bien alors on dit, tu vas toi-même prendre possession de moi, et à ce moment-là, tu vas m'envoyer tes dons, et bien sûr, je vais rester complètement moi-même, hein. Mais sous ta motion, sous ton action, est-ce que vous voyez la différence, hein? Très important de comprendre ça. Alors, ça va se traduire. Donc, les sept dons du Saint-Esprit, alors je les résume en vitesse. Le premier don, c'est le don de crainte. Alors, le don de crainte, c'est pas la peur. Là aussi, les mots sont piégés. Tout ça, ça vient du latin, vous comprenez? Alors, ce sont des mots qu'on a traduits, mais en français, ils ont un sens différent. Ça a pris peu à peu un sens différent. La crainte, c'est pas la peur. La crainte, c'est reconnaître que Dieu est Dieu et que nous ne sommes que nous-mêmes. C'est la bonne situation. Le bon positionnement vis-à-vis de Dieu. Il y a un philosophe de 68 qui s'appelait Maurice Clavel, qui s'était converti et qui a écrit un bouquin qui s'appelle Dieu est Dieu, nom de Dieu. Dieu est Dieu, nom de Dieu. Eh bien, ça, c'est assez juste. Ça, c'est le don de crainte. Vous voyez, Clavel avait découvert le don de crainte. C'est pas mal pour un 68 art. Mais vous 68, vous savez, parce que c'est là. C'était il y a plusieurs siècles. Bon. Mais Clavel avait compris. Il avait compris. Il avait compris, en fait, que, eh bien, voilà, Dieu est Dieu, c'est l'éternel, c'est le tout-puissant, c'est le créateur du monde. Et nous, on est très bien, on est très chouette, mais on est que nous. Et donc, il n'y a pas d'égalité, quelque part. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour, mais il faut se situer de façon juste. Donc, ça, c'est le don de crainte, qui n'est pas la peur. D'accord. Bon, la crainte. Alors. la crainte, le don de force, qui va perfectionner la vertu de force. Alors le don de force va permettre d'aller infiniment plus loin que notre propre résistance. On va, par exemple, les martyrs reçoivent avec abondance le don de force. Ils ont une espèce de puissance intérieure qui leur fait surmonter les difficultés. Et vous avez, par exemple, un homme qui avait reçu le don de force de façon suréminente, c'est Jean-Paul II. Même au point de vue physique, hein, et au point de vue psychologique. Hein, vous voyez, il a tenu bon, il a avancé, il a fait des choses extraordinaires. On se demande physiquement comment il tenait, quand on voyait sa vie. Oui. Il avait reçu une espèce de puissance du don de force. Oui. Bon, je suis persuadé que notre pape actuel, Benoît XVI, au milieu des difficultés que la presse lui sert quotidiennement, reçoit aussi le don de force au milieu de tout ça. Oui. Nous devons prier pour que les responsables reçoivent le don de force. D'accord. La vertu de force est perfectionnée, mais de façon éminente, par le don de force. D'accord. Un homme qui l'avait reçu, tiens, qu'on a connu, c'est le cardinal Lustiger. Il est mort, on peut en parler. Non, mais c'est vrai. Je veux dire, il avait reçu une puissance du don de force. Ça, on le voyait très bien. Il est arrivé à Paris, dans un diocèse, en situation dramatique, vous voyez, avec plein de gens contre lui. Il n'a pas cédé. Il n'a pas cédé. Il a avancé, 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 avancé. Rien ne l'a détourné de son but. Rien. Et ce n'était pas de l'entêtement. C'est sûr que le don de force peut quelquefois... là aussi, ça peut dévier, si vous voulez, un entêtement. Mais si c'est bien vécu, c'est pas de l'entêtement. Oui. Nous avons un témoignage du cardinal 23, l'actuel archevêque de Paris, sur Pierre Goursat, qui est un témoignage assez humoristique. Pierre Goursat, c'est le fondateur de l'Emmanuel, qui est un témoignage assez humoristique dans lequel il disait que Pierre, quand il avait pris une décision, maintenait ses positions quoi qu'il arrive. Et le cardinal 23 disant en riant, on pourrait appeler ça de l'entêtement. Certains appelleraient ça de l'entêtement. Et il disait, on peut aussi l'appeler le don de force. Oui, dans le cas de Pierre, je crois que c'était vraiment le don de force. La crainte de Dieu, la force, le don de piété. Le don de piété, c'est un don très important parce que c'est la manière de prier avec amour le Seigneur. Ouais. Comment prier le Seigneur avec amour, voyez. Comment le prier de façon juste, avec cette tendresse du cœur, cette affection pour notre Père des cieux. Alors, le don de piété, c'est un très beau don. C'est un très très beau don. Ça ne consiste pas à être gna gna, à être bêta. Non, c'est un don qui est fort, qui est beau, don de piété. Alors un autre don qui est très très important, c'est le don d'intelligence de la foi. 4. J'espère que je ne vais pas l'oublier. Le don d'intelligence de la foi, ce qu'on appelle le don d'intelligence. Alors le don d'intelligence, des gens très simples peuvent le recevoir. Ça consiste à comprendre la doctrine de la foi chrétienne. Qu'est-ce que c'est le christianisme? De quoi s'agit-il? Et vous avez des gens qui le reçoivent de façon éminente. Je vais vous raconter deux histoires très belles, hein, qui sont deux histoires de conversion. Le premier, c'est Paul Claudel. Paul Claudel, vous savez, était un grand poète français, enfin, que vous connaissez au moins de nom. Claudel était parfaitement athée, mais alors parfaitement, hein. Et il se trouve qu'il a été, je ne sais plus en quelle année, 1880, je ne sais plus trop quoi, à Notre-Dame de Paris, un dimanche, un jour de Noël, l'après-midi, pour entendre chanter les enfants de la chorale. Parce qu'il était très esthète. Et donc, à l'époque, il n'y avait pas la télé et les CD. Donc, si vous vouliez entendre des belles choses, il fallait aller dans les cathédrales. Bon, donc, il a été entendre les enfants de la chorale, pour des raisons esthétiques. Et tout d'un coup, boum, le ciel lui tombait dessus, il s'est retrouvé converti. On connaît l'emplacement, on a même mis une plaque à Notre-Dame de Paris, à l'endroit où il s'est converti. Il est ressorti de là en se disant, j'ai la foi, mais je suis fou, parce que dans ma pensée, tous les arguments contre le christianisme demeurent. Vous comprenez, sa pensée n'était pas touchée. Il avait la foi, voyez, mais intellectuellement, tout ce qu'il avait contre le christianisme demeurait en place. Il avait reçu la foi, il avait reçu la vertu de foi, voyez, indiscutablement, voyez, mais il n'avait pas reçu le don d'intelligence de la foi. Il a mis 10 ans à faire la jonction, en quelque sorte, des différentes parties de son être. 10 ans, qui ont été des années assez chaudes, je peux vous dire. Il était consul de France à Pékin. Il a fait à peu près, peut-être pas toutes les bêtises que l'on peut faire, mais en tout cas, il en a fait une sacrée liste. Bon. Donc, il a mis 10 ans. Un autre exemple qui est tout à fait différent, c'est l'exemple d'André Frossard. André Frossard, en 1936, fils d'un ministre communiste du Front Populaire. Est-ce qu'il était baptisé? Je ne sais pas trop. En tout cas, rien de plus. Absolument pas la foi. Et Frossard va attendre un copain qui était à Normal Sup, rue d'Ulm, où est Normal Sup. À l'époque, il y avait une chapelle qui maintenant est de l'autre côté, rue Gay-Lussac, et où il y avait l'adoration du Saint-Sacrement permanente. Comme il s'ennuyait parce que son copain se faisait attendre, il ne savait pas où aller, il rentre dans la chapelle, le Saint-Sacrement était exposé, et bing, le ciel lui tombe sur la tête. comme Saint-Paul, comme Claudel. Sauf que, à la différence de Claudel, lui qui n'avait jamais été au catéchisme, Claudel y avait été, lui qui n'avait jamais été au catéchisme, qui ne connaissait rien du christianisme, il a tout compris. Il a reçu toute la doctrine de la foi en un instant. Il est sorti de là, il savait parfaitement ce qu'était le christianisme. Tout lui avait été donné en un éclair. Ça, c'est le don d'intelligence de la foi. Est-ce que vous comprenez? Alors en général, ça ne se passe pas comme ça pour nous, il faut du temps. Mais c'est très important. Et des gens très simples le reçoivent, le don d'intelligence. Et on doit tous le demander. Tous. Comprendre ce qu'est la foi chrétienne. Est-ce que vous comprenez? Parce que la foi chrétienne, c'est objectif. On ne la crée pas. On ne se crée pas sa religion parce qu'on fait un choix. Ce n'est pas un supermarché des religions, le christianisme, dans lequel on va rentrer, on va dire, moi je prends ça, ça me plaît, moi je prends... Non, on prend tout, ou on prend rien. Est-ce que vous comprenez? Ou alors on est à côté. Vous comprenez ça? Bon. Je me rappelle un jour, je prêchais une retraite à la Flatière, hein, et j'avais fait un exposé sur les deux natures dans la personne du Christ. Nature divine et la nature humaine. Bon, il faut bien en parler un jour. C'est pas spécialement complexe, mais enfin, il faut quand même en parler, c'est pas toujours facile à comprendre. Hein. Donc, moi, je m'échinais, je transpirais pour essayer d'expliquer ça aux gens, voilà. Hein. Bon. Et à la fin, il y a un petit monsieur qui est venu me voir, et un homme tout à fait simple, qui était ouvrier, je crois, et qui m'a dit, je crois que j'ai compris. Et en trois phrases, il m'a résumé tout mon enseignement, c'était d'une limpidité absolue. C'était beaucoup plus clair que ce que je disais moi. Il m'a appris des choses, hein. C'était exactement ça. Il avait vraiment le don de l'intelligence de la foi. Ça va? Bon, ok. Donc, on a dit le don de crainte, le don de piété, le don de force, le don d'intelligence de la foi, le don de conseil. Alors, le don de conseil, ça, c'est très important. Et là aussi, on doit le demander. C'est-à-dire, c'est dans les situations où on a des décisions à prendre ou des choses à réfléchir, aller plus loin que la simple pensée humaine. Vous voyez, parce que quand on a une décision à prendre, quelquefois, on ne sait pas trop si la décision est... Alors, on va au bout de notre raisonnement, de notre information, on demande conseil, tout ça, c'est très bien. Mais à un moment donné, il faut aller plus loin. Vous voyez, Et donc, le don de conseil est un don qui est suréminent, quelque part, qui va nous aider énormément, vous voyez, énormément, pour voir la réalité des choses, hein, pour aller plus loin que les choses habituelles, et pour comprendre mieux. Une personne qui avait le don de conseil de façon prodigieuse, c'est Marthe Robin. Marthe Robin, vous savez, qui était couchée dans son lit, qui était grabataire, hein, c'est cette Française qui vivait près de Valence. Elle a reçu dans sa chambre 103 000 personnes dont on connaît le nom. Elle a changé la vie de milliers de gens. Et elle avait le don de conseil. Vous voyez, elle sentait les trucs qu'il fallait dire. Je vous cite un exemple au milieu de milliers d'autres. J'ai une de mes amies, qui était une fille qui à l'époque avait à peu près une trentaine d'années, qui travaillait à Paris, très très jolie fille. Et elle n'était pas mariée. Et alors, elle va faire une retraite à Châteauneuf, elle va voir Marthe. Et elle lui dit, elle se présente à l'époque, Marthe recevait plein de gens dans la journée, elle recevait 60 à 80 personnes quand il y avait des retraites, on ne pouvait pas rester longtemps. Elle s'appelle Elisabeth, elle avait donc trois minutes avec Marthe. Alors, elle s'assied, Marthe lui dit de se présenter, elle se présente. Et avant qu'elle ait le temps de dire quoi que ce soit, Marthe lui dit, la vie sentimentale, comment ça va? Eh bien, dit Elisabeth, il y a un type dans mon boulot, là, dans mon travail, elle travaille aux Champs-Élysées dans une grosse boîte. Il y a un des cadres de l'entreprise qui m'a demandé ma main, mais j'hésite pour telle et telle raison. Ah, dit Marthe, il n'y en a pas d'autre? Alors elle dit, il y en a un autre là qui me court derrière, il est très pressant, mais j'hésite aussi pour telle et telle raison. Ah, dit Marthe, il n'y en a pas d'autre? Alors, elle dit, il y a un militaire français là qui fait un échange avec l'armée canadienne qui est à Québec, que je connais depuis très longtemps, mais voilà, sa période s'est décidée pour telle et telle raison. Ah, dit Marthe, je crois bien que vous devriez lui écrire. Et elle ajoute, et pour le premier, n'y pensez plus. Alors Elisabeth a dit au premier que la question était réglée. Elle a écrit à Charles qui était au Québec, vous voyez. Charles l'a invité au Québec, ils se sont mariés, voilà, et ça fait un très beau couple. Ils ont mal tourné, ils sont rentrés dans les manuels, mais à ce détail près, c'est le... ça c'est le don de conseil. C'est le don de conseil. Ça va? Bon. Alors, le don de conseil, il y a encore deux dons. Le don de sagesse et un autre don, le don de science. Alors, le don de science. Alors, le don de science, c'est un don qui est très particulier. Et là aussi, quelquefois, des gens très simples le reçoivent. Mais ça ne serait pas plus mal si les responsables le recevaient. Le don de science, c'est assez spécial comme don. C'est voir le monde comme Dieu le voit. Par exemple, un exemple du don de science, c'est quand le Christ apparaît à Marguerite Marie et qui lui dit, de la plupart des hommes, vous rappelez la phrase, hein, je ne reçois que des ingratitudes et des irrévérences. Hein, c'est une effusion du don de science. Hein, parce que ça, il voit en quelque sorte, il radiographie le monde. Oui, il va voir la réalité des choses. D'accord, la réalité des choses, la réalité des cœurs, la réalité des ensembles humains. Eh bien, ça, c'est le don de science. Et ça, c'est un don très, très important, parce que la vie n'est pas ce qu'on croit, elle n'est pas ce qu'on nous présente, vous voyez. Elle n'est pas ce que fait l'Internet, et elle n'est pas davantage ce que disent les médias. Tout ça, c'est du flan, en réalité. C'est pas que ça soit entièrement faux, mais c'est largement faussé. Vous comprenez? Et entre parenthèses, ça a toujours été comme ça. Parce que vous regardez les journaux français de l'entre-deux-guerres, hein, en matière d'erreurs par rapport aux prévisions de ce qui s'est passé, c'est absolument grandiose, hein. Mais quand vous regardez les journaux des années 1880, c'était pas beaucoup plus intelligent, vous savez. Donc je pense que l'être humain, naturellement, se trompe avec une facilité absolue. Donc le don de science, il va donner une espèce de regard juste sur le monde. Mais ça suppose beaucoup d'humilité. Oui. Ça suppose beaucoup, beaucoup d'humilité. Et donc ça évite de parler tout le temps pour dire des bêtises. À ce moment-là, on parle moins, mais on tape juste. C'est très important. Un autre don, c'est le don de sagesse, qui est le don de le dernier don, qui couronne tous les autres. Le don de sagesse, c'est le don de la contemplation, c'est la vie avec Dieu. Vous voyez, c'est le don de l'intimité avec Dieu. Et ça, c'est le don supérieur qu'on doit tous demander. Bien. Alors, une fois que j'ai parlé des vertus, ça va, vous comprenez, que j'ai parlé des dons, je dis un tout petit mot des charismes. Donc, les charismes, ce sont des dons de Dieu, parce que ce n'est pas les grands dons, ce sont des qualités que Dieu nous donne, des cadeaux que Dieu nous fait pour la construction de l'Église. Ils sont indépendants de nos vertus, vous voyez. Mais si on les exerce bien, ils perfectionnent les vertus et s'accrochent à l'intérieur de nous. Alors, un don, par exemple, alors, il y a les dons que vous trouvez chez Saint Paul, donc les dons du Saint-Esprit, tels que vous les voyez dans le renouveau charismatique, hein. Mais il y a plein de petits dons qui sont très, très importants, comme le don de service, par exemple, vous voyez. Par exemple, Rémi, là, il a ouvert la porte, et bien, il vient de manifester le don de service, hein, vous voyez. Le charisme de service, plutôt. Bon. Donc, il y a plein de charismes comme ça, vous voyez. Il y a le charisme d'éducation des enfants, le charisme d'éducation des maris, je vous dis pas. Le charisme de supporter les femmes, je vous dis pas non plus. Le charisme de supporter les curés, ça c'est très difficile. Le charisme de supporter les paroissiens, c'est encore plus difficile. Vous avez plein de charismes comme ça, vous voyez. Vous avez des charismes de chant, d'entraînement, de gaieté, de joie, d'éducation. Plein de cadeaux que Dieu donne aux hommes, vous voyez. Si on les reçoit, ils s'accrochent à l'intérieur de nous et ils nous font avancer. Ça va jusque-là? Donc la vie chrétienne, en réalité, ça repose sur quoi? Ça repose sur les vertus, ça repose sur les dons de l'Esprit-Saint et ça repose sur les charismes. Ça va? Bon. Alors, vous survivez? Vous avez bien de la chance. Alors, à l'intérieur de tout ça, il y a donc plein de petites vertus, plein d'attitudes de l'esprit, de l'âme, vous voyez, de la psychologie, des plis de la personne, qu'on redécouvre en quelque sorte. Et de ce point de vue-là, le bouquin de Chapman est pas mal. Alors, Chapman, c'est un pasteur évangéliste américain, qui est un type tout à fait opportun, intelligent, qui a écrit un bouquin qui est très célèbre, qui s'appelle « Les langages de l'amour ». Alors, c'est un bouquin qui est bien, il ne faut pas en faire une recette absolue, hein. C'est toujours pareil, ces trucs-là, si on les absolutise, on se trompe, hein, vous voyez. Mais ce sont des bonnes indications. Et donc, ça dit des trucs qui sont tout à fait vrais, qu'il a bien constaté, qu'il a théorisé, ça ne dit pas tout de l'être humain, c'est là où il ne faut pas se tromper, mais c'est intéressant et c'est souvent assez juste, hein. Avec plein d'exemples qui sont quelquefois assez amusants. Je pense qu'il doit être un bon thérapeute, en fait. En réalité, c'est un thérapeute de couple. Alors, du coup, il a trouvé un filon, mais tout à fait juste, hein. Et donc il s'est mis à produire plein de bouquins sur son exemple, et les bouquins sont très intéressants. Il a fait la fortune des éditions Farel, qui sont des éditions protestantes, qui ont été assez malignes pour le traduire. Aux éditions d'Emmanuel, on a été un peu long. On aurait dû aller plus vite, hein, on serait devenu milliardaire. Hein. Bon. Et donc il a fait comme ça toute une série de bouquins qui sont bien. Donc l'un des derniers, qui est très chouette, ça s'appelle « Aimer un mode de vie ». Autrement dit, comment décider dans sa vie d'aimer. Et comment on va le traduire dans la pratique, hein. Qu'est-ce qu'on va faire pour aimer réellement? Quelles attitudes va-t-on avoir? Comment on va les mettre en place, hein, voyez? Et à la limite même, comment peut-on être aidé à les mettre en place? Par exemple, par des petits exercices, hein, ouais, par des réflexions, par des convictions intérieures. Hein. Alors, je vais simplement donner la liste, et puis après ça, vous l'achèterez. Si vous en avez envie. Si vous n'avez pas envie, c'est pas grave. Hein. Bon. Alors, d'abord, la première des choses, d'abord, c'est qu'il commence son bouquin par le désir d'aimer. Il faut décider d'aimer. Au fond, si vous voulez, il y a une décision profonde à prendre un jour, qui consiste à dire, ou je me mets moi au premier plan et je m'aime moi, ou alors je décide d'aimer les autres et Dieu avant moi. On se retrouve très bien quand même à la fin. Hein. Mais c'est une décision, ou je roule pour moi, ou je mène ma vie pour moi, ou alors, je décide de me donner à Dieu, de l'aimer et d'aimer les autres. Et à ce moment-là, la vie change complètement. La lumière change sur la vie totalement. Mais totalement. Quelles que soient les difficultés de la vie, qui ne nous sont pas épargnées. Hein. Qu'on soit célibataire, marié, veuf, consacré, prêtre, tout ce que vous voulez, on a tous des difficultés dans la vie. C'est pas une société d'assurance. Hein. Mais on va la vivre autrement. On va vivre autrement. Pourquoi nous désirons aimer ? Alors après ça, il prend un certain nombre d'attitudes intérieures. Hein. Et la première, par exemple, c'est la bonté. Et le sous-titre du chapitre sur la bonté, c'est « Découvrir le bonheur de faire passer l'autre avant soi-même ». C'est ce que je vous disais à l'instant. On commence par quoi ? Si je commence par l'autre, si je fais passer l'autre avant moi, l'autre, ça peut être mon conjoint, mais ça peut être n'importe qui. Alors, à ce moment-là, dans mon cœur, la première attitude, ça va être l'attitude de la bonté. Vous avez des gens qui portent la bonté sur eux. Un très bon exemple, c'est Jean 23. On l'appelait le bon pape Jean, vous savez. Vous avez vu des photos de Jean 23, des films de Jean 23, non ? Il transpirait la bonté. Non ? Vous avez des gens qui transpirent, vous avez des gens qui vous font peur quelquefois. Non, ça vous est jamais arrivé. Mais quelquefois, on a des gens dans le boulot ou ailleurs, vous les regardez, vous dites, mais jamais je voudrais travailler avec ce gars-là. Non ? Je voudrais surtout pas appartenir à sa famille. Hein ? Qu'est-ce que ça va être pour ses enfants ? Vous voyez ? Bon, vous avez des gens, vous partez le plus loin que vous pouvez. Vous avez des gens, au contraire, vous êtes comme aimantés par eux tellement ils sont bons. Non ? Jean 23, oui, Jean 23. Ça me rappelle une histoire de Jean 23 qui n'a aucun rapport avec le sujet, mais que je trouve drôle. Vous savez qu'il était assez gros. Et alors, un jour, dans une réception à Paris, il se trouve avec le secrétaire du Parti communiste français, Maurice Thorez, qui lui-même était assez enveloppé, on va dire ça comme ça. Et alors, Jean 23, lui, s'approche de lui et dit, « Monsieur le secrétaire général du Parti communiste, je sais que nous ne sommes pas de la même paroisse, mais je constate que nous sommes du même arrondissement. » Mais c'est plein de bonté. C'est plein de bonté. C'est plein de bonté. Je me rappelle un acte de bonté de Jean-Paul II que j'avais trouvé très, très chouette. Quand j'étais au séminaire à Rome, dans le séminaire français où j'étais, on avait un séminariste lyonnais. J'aime beaucoup Lyon. Hein. Beaucoup. Je dis ça pour les Lyonnais qui sont là. Ceci dit, il était très lyonnais. Il était d'un sérieux absolument extraordinaire. Mais vraiment, on avait un mal de chien à le dérider. Alors, le cardinal de Courtrai l'amène à la messe de Jean-Paul II. Le cardinal de Courtrai passait à Rome, l'archevêque de Lyon de l'époque, il passait à Rome, il va concélébrer avec le pape, il y avait un séminariste à lui, au séminaire français, il lui dit, viens avec moi, donc il l'amène à la messe du pape. Alors, moi j'étais dans ma chambre, vers, je sais pas, 9h ou 9h30 du matin, le gars déboule dans ma chambre, on était assez copains, il me dit, Bernard, le pape m'a parlé. Ah bon, je lui dis, qu'est-ce qu'il t'a dit ? Le pape lui avait pris l'oreille, hein. Il avait dit, ouh, qu'il est maigre. Ça l'avait touché, vous voyez, ça l'avait touché. Mais ça, c'est la bonté. Ouais, ça, c'est la bonté. Bon. Alors, essayez. Vous prenez les oreilles, vous tirez très fort. C'est la bonté. Bon. Alors, ensuite, après ça, une autre vertu, c'est la patience. Ah, la patience. La patience. La patience. Mon Dieu, il paraît que ça existe. Donc, ça consiste à accepter les imperfections des autres. Eh bien, il faut le faire, je vais vous dire. Et c'est là où, en même temps, c'est une très belle vertu, la patience. Parce que si vous acceptez les imperfections des autres, ils se convertissent à la fin. Quand ils vous ont assez embêté, ils se convertissent. Ouais. Donc, c'est plein d'espérance. Et c'est très important d'être patient, mon Dieu. Parce qu'en réalité, l'être humain se joue sur le temps. La vie, ça se joue sur le temps. Vous n'allez pas régler... Les problèmes humains ne se règlent pas de façon instantanée, c'est pas vrai. Tous les problèmes relationnels prennent du temps. Donc ça suppose une dose de patience assez grande. Vous voyez, alors là-dessus, on va expérimenter la vertu de force et le don de force. Bon. Le pardon. Le sous-titre est très beau. S'affranchir des griffes de la colère. S'affranchir des griffes de la colère. C'est prodigieux ce que la colère nous tient. D'abord, on l'entretient, la colère. C'est comme l'angoisse, vous savez, ou l'inquiétude. Vous avez des gens qui cultivent l'inquiétude comme les Hollandais cultivent les tulipes. Ah, c'est extraordinaire, c'est admirablement bien fait, c'est bien rangé, c'est parfait, il n'y a rien de manque. Hein. Voyez, c'est pareil, on peut faire ça pour l'inquiétude et on peut faire ça pour la colère. Hein. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et donc, voilà, bon, le pardon. Et la colère ne peut, en réalité, vous ne pouvez sortir de la colère que par le pardon. Il n'y a pas d'autre issue. Ensuite, après ça, une autre vertu qui est très très belle, hein, très très belle, très importante, et qu'il faut absolument qu'on rétablisse, hein, autrement on en crèvera, c'est la courtoisie. Et là, le sous-titre, c'est traiter les autres comme des amis, la courtoisie. Ouais. C'est-à-dire se traiter les uns les autres avec égard. Alors les égards peuvent prendre des formes complètement différentes. Hein. Les civilisations n'ont pas du tout la même manière de se parler. Il y a différentes manières d'être courtois ou d'être amical. Quand j'étais au séminaire français, excusez-moi de raconter ma guerre, quand j'étais au séminaire français, on avait un groupe de prières charismatiques à l'intérieur du séminaire le matin. Et dans ce groupe de prières, qui était animé par l'Emmanuel, il y avait aussi les frères des Béatitudes et quelques gars du séminaire, il y avait un Espagnol qui faisait partie de l'Emmanuel. Et alors un jour, indépendamment du groupe de prières, en maisonnée, cet Espagnol nous dit, vous savez, on se donnait le baiser de paix le matin. Alors il dit, mais vous vous donnez le baiser de paix, vous autres, mais c'est effrayant, c'est pas un baiser de paix, ce sont des coups de tête. Ben c'est vrai qu'on était 15 ou 20 au groupe de prière, on n'avait pas tellement le temps de se péter la bise, alors on se faisait un petit baiser de paix comme ça. Il dit, mais c'est pas comme ça le baiser de paix. Le baiser de paix, il faut vraiment qu'on se donne un baiser de paix. Ah bon, on l'écoutait. Alors on lui dit, écoute, tu pourrais pas nous montrer? Alors oui, il nous dit, d'accord, viens Rémi, je vais te montrer. Alors, il prend un dégât du séminaire et il l'attrape à bras le corps, comme ça. Et puis il lui dit, mais tu me tapes pas? Alors, on commence à lui taper sur le dos, ça dure 5 minutes si vous voulez, et il nous dit, il faut faire comme ça. Ça, c'est le baiser de paix. C'est une forme de courtoisie, nous dit-il, c'est une forme de courtoisie. Ah bon, d'accord. Alors, le lendemain matin, on fait la prière comme tous les matins, et puis on se jette sur les gars des béatitudes qui étaient là, on te les attrape à plein corps, et on commence à te leur envoyer des coups dans le dos. Les gars, ils étaient comme ça, ils demandaient ce qui nous arrivait. Oui, ils devaient penser que l'Emmanuel était fou, ça on le savait, mais enfin, à ce degré-là, on n'a pas continué, parce qu'en réalité, on s'est aperçu que ça nous prenait un quart d'heure tous les matins. Mais c'était une forme de courtoisie. Vous comprenez? Tout ça pour dire qu'il y a différentes formes de courtoisie. Bon, mais c'est très beau. L'humilité. L'humilité. Le sous-titre est assez fort. Descendre pour permettre aux autres de monter. Ça, c'est assez beau. L'humilité. Ne pas se mettre au sommet de la pyramide humaine. Ne pas penser qu'on est le phénix des autres de ce bois. C'est pas vrai, on l'est pas. On a tous un pet dans le casque. On a tous un caillou dans le soulier. Alors, les cailloux varient. Vous voyez? Mais de toute façon, on est tous là. Et donc, c'est pas la peine de penser qu'on est les meilleurs, les plus beaux, et de toute façon, quand on l'est, ça dure pas. Et en plus, ça embête les autres. Vous voyez? Se mettre à sa vraie place, et il vaut mieux même se mettre légèrement plus bas, vous voyez, que légèrement plus haut. La générosité, se donner aux autres, ça c'est une très belle et très très grande vertu. Très belle et très grande vertu. La générosité, donner, se donner. Alors, il y a une manière intelligente de donner, il y a une manière bête. Hein, mais ça peut tout à fait être intelligent. Et la dernière, l'honnêteté. L'honnêteté, révéler qui vous êtes réellement, ne pas porter de masque. Alors la société humaine fait qu'on porte tous des masques, plus ou moins. Montaigne le disait déjà très bien, il y a tout un passage de Montaigne là-dessus qui n'a pas pris une ride. Mais en même temps, voyez, peu à peu, être soi-même, être sincère, donner ce qu'on est, montrer ce qu'on est. On n'est pas obligé de révéler son intimité, certainement pas. Mais ne pas jouer de jeu, voyez, ne pas jouer un jeu. Voilà. Et alors après la deuxième partie, il explique comment on peut faire de l'amour un mode de vie dans le travail, dans le mariage, pardon, avec les enfants et aussi au travail. Au travail. Donc il y a une partie sur l'amour dans le travail, ce qui n'est pas du tout idiot. Vous avez toutes les vertus maintenant. Alors, moi je vais m'arrêter là. Donc, si vous voulez, vous pouvez poser quelques petites questions comme ça pendant quelques minutes, hein. Puis après ça, vous irez vous reposer, moi aussi. Vous voulez savoir que les fruits de l'esprit, alors là c'est encore autre chose, vous les lirez dans Saint Paul, les fruits de l'esprit. C'est la conséquence des dons du Saint-Esprit, ça, vous voyez, des charismes. La joie, la paix, l'amour des autres. Mais vous avez bien raison de les signaler. Oui, vous avez bien raison. Parce que les fruits de l'esprit, quand on demande à Dieu de venir dans notre âme, quand on demande à l'Esprit Saint de venir en nous, et qu'on le demande de façon constante, on peut repérer l'action de l'Esprit Saint. Et on peut la voir. Alors comment on la voit? Alors d'abord, il y a une chose qui est très très importante, c'est la paix de l'âme. La paix du fond de l'être. Les nerfs font ce qu'ils peuvent, ils ne sont pas toujours dans la paix. Hein. Mais dans le fond de notre âme, le Seigneur peut créer comme une espèce de lac de paix. Oui, un lac d'eau calme qui n'est jamais troublé. Et c'est très important que Dieu fasse ça en nous, parce que l'Esprit Saint parle bas. Dieu parle bas en général. Quelquefois il envoie des claques assez fortes, mais en général il parle bas. Et donc, s'il parle bas, il faut qu'on puisse l'écouter. Voyez. Et donc il faut qu'à l'intérieur de nous-mêmes, il y ait une zone absolument paisible. Et donc la paix de l'âme, c'est un don de l'Esprit Saint. Voyez. Bon, ensuite après, la joie est un don de l'Esprit Saint. L'amour des autres, le désir du service, etc. Tout ça, c'est des fruits de l'Esprit. Il y en a plein. La générosité, la bonne entente, tout ça, c'est des fruits de l'Esprit. Il y en a plein. Saint Paul en fait une énumération, mais qu'on peut compléter, qu'on peut ajouter. L'espérance est une vertu théologale, mais comment peut-on la fortifier? Comment peut-on grandir? Alors, tout simplement, par répétition, en faisant des actes volontaires d'espérance. C'est, au fond, c'est tout ce que Saint Paul explique. C'est-à-dire, on a plein de situations, les uns et les autres, qui sont des situations dans lesquelles on peut être en manque d'espérance. Non ? Par exemple, des situations du monde, des situations de l'Église, vous voyez, des situations personnelles, des situations familiales, vous voyez, donc des situations de travail. Et alors à ce moment-là, il faut faire des actes d'espérance. C'est-à-dire qu'il faut dire, Seigneur, je crois que même dans cette situation difficile, tu es présent, que tu vas en tirer quelque chose, et moi, tu vas me faire avancer. Ça, c'est un acte d'espérance. Et on s'aperçoit qu'en fait, en effet, il se passe des choses. En effet, il se passe des choses. Parce que l'espérance, la vertu d'espérance est très importante à l'heure actuelle. C'est une vertu qui a une particularité. L'espérance, elle crée l'avenir. C'est très étonnant. Elle crée l'avenir. Par exemple, quand vous dites « Seigneur, je sais » Par exemple, qu'il y a un manque de vocation à l'heure actuelle, en Europe occidentale et en France en particulier, dramatique. Eh bien, si on prie dans l'espérance, si on dit « Seigneur, je crois que tu donneras des vocations à ton Église », elles viendront. Parce que Dieu ne peut pas refuser cette prière-là. Vous comprenez ? Parce que c'est la prière de l'humble, c'est celui qui n'a rien. Il n'a que l'espérance. Vous comprenez ? Il n'a que l'espérance. Et Dieu bénit les pauvres. Vous comprenez ? Ah, c'est vrai sans arrêt dans la vie. Il faut beaucoup, beaucoup cultiver l'espérance. Il faut toujours se rappeler que la première des vertus, c'est la prudence. La prudence ne consiste pas à être idiot. Ça consiste à... Vous voyez, tout s'équilibre toujours dans les vertus. Vous voyez ? Qu'est-ce que je dois dire de moi ? Qu'est-ce que je dois livrer de moi ? Il ne faut jamais mentir. On n'est pas obligé de tout dire. Hein. Jusqu'où je peux aller ? Qu'est-ce que je vais ? Par exemple, il y a des fois, il faut dire les choses aux gens de façon très sincère. Hein. Quelquefois, quoi qu'il en coûte. Mais il y a des fois, il ne faut surtout pas le dire. Hein, parce que ce n'est pas le moment. Ça ne sera pas reçu, ça ne sera pas compris. Ouais. Donc il faut toujours, toujours, toujours se laisser diriger par la prudence. Et la prudence, ça part du bon sens. Le bon sens, l'expérience de la vie, demander conseil. Ouais. Savoir où on met ses billes. Et à ce point de vue-là, quand on reçoit le don de conseil, alors vraiment, ça aide beaucoup. 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 Parce que quelquefois, on se dit, mais qu'est-ce qu'il faut que je dise ? Jusqu'où il faut aller ? Moi, je le vois bien dans la confession, par exemple. Quand vous êtes prêt de vous confesser. Oui. Mais quelquefois, vous avez des gens qui se confessent, qui vous demandent des avis. Moi, je me dis, mais Seigneur, tu ne pouvais pas l'envoyer à quelqu'un d'autre ? Non, il fallait vraiment que ça tombe sur moi. Tu n'es pas notre adresse. Hein. Mais je me dis, non, le Seigneur me l'envoie à moi. Alors à ce moment-là, je supplie l'Esprit Saint de me donner le don de conseil pour répondre de façon juste. Oui, le don de conseil aide beaucoup. On peut recevoir un don de façon instantanée, oui, ça peut arriver. Oui, oui, tout à fait. Par exemple, le don de force, dans une situation difficile. En général, l'Esprit Saint prend le temps. Je veux dire, il prend le temps. Il utilise le temps, plutôt, pour faire croître au fur et à mesure qu'on peut absorber et des besoins qu'on a. Mais l'Esprit Saint peut quelquefois donner des dons de façon absolument spectaculaire. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Distinction entre dons et charisme. Les dons, c'est plus profond. Les dons, c'est attaché à notre... Quelque part, les dons sont attachés aux vertus. Vous voyez ce que je veux dire, hein ? Ils perfectionnent les vertus, ils vont plus loin. Mais si on n'a pas, par exemple, si on ne fait pas un effort du côté de la vertu de prudence, hein, du côté de la réflexion, le don de conseil ne servirait à rien. Ouais. Les charismes, c'est plus extérieur. Les charismes, ce sont des choses que Dieu nous donne pour construire l'Église. Ouais. Donc, un charisme, ça peut disparaître. Par exemple, prenons un cas très simple. Dans les charismes évidents, dans le renouveau, c'est le chant en langue. Le chant en langue, ça peut disparaître. Quelqu'un peut chanter en langue et s'arrêter de chanter en langue. Ouais. Ça peut tout à fait arriver. Bon. Vous avez plein de charismes comme ça qui peuvent disparaître. Dieu les retire. Alors, pour notre bien... Oui, soit parce qu'on est dans une situation où on ne peut pas vraiment les exercer, oui. Soit parce qu'il va en donner d'autres, soit pour notre conversion. Les dons, Dieu ne les retire pas. Ils s'enquistent, ils descendent de plus en plus profond à l'intérieur de nous. Mais nous, on peut les refuser. Oui. Donc quelqu'un, par exemple, qui aurait reçu un don de conseil, mais qui l'exercerait pour la mauvaise cause, Dieu va lui retirer à ce moment-là. Mais normalement, les dons demeurent, c'est stable. Il y a une part de combat, on se bat contre nous, quelquefois contre les autres, contre les forces mauvaises aussi. Ouais. Donc la patience, il faut décider de l'exercer. Il faut se battre, il y a une part de combat. Hein. C'est tout ce qu'on a, il y a un mot que je n'ai pas prononcé, mais que j'aurais dû prononcer dès le départ, c'est le combat spirituel. Il y a une part de combat, on se bat contre nous, quelquefois contre les autres, contre les forces mauvaises aussi. Donc, alors on a des échecs, mais après on a des qualités, tu vois, ça va mieux. Tu comprends ? On avance avec le temps. On avance avec le temps. Moi, je vois, par exemple, moi, je peux vous dire, je suis une famille où mon père était prodigieusement impatient. Il m'a passé ça. Mais je voyais bien que papa faisait des efforts de patience. Avec moi, il fallait qu'il en fasse, je peux vous dire. Et quand je réfléchis en fait à ma relation avec mon propre père, hein, je m'aperçois que papa, qui m'aurait quelquefois envoyé des gifles, il aurait eu raison de le faire, hein, ne le faisait pas, il prenait patience. Hein, ouais. Il se disait, bon, ça va s'améliorer avec le temps. Puis ça a donné, voilà, peu à peu, ça a avancé. Est-ce que vous comprenez ? Ouais, et quand je réfléchis à l'attitude de mon père vis-à-vis de certaines circonstances, et surtout vis-à-vis de moi, je me dis, voilà un type qui était très impatient, était très vif, et qui en réalité a fait d'énormes efforts de patience dans sa vie. Et moi j'en suis très reconnaissant. Très reconnaissant. C'est une chose qui m'a énormément aidé. Énormément aidé. J'aurais été à sa place, je crois qu'il m'aurait j'aurais étranglé un fils si je l'avais eu comme ça. Mais il ne m'a pas étranglé. Allez, on va s'arrêter là. À tout à l'heure.